9 et 10 en partie. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kish, fils d'Abiel, fils de Tseror, fils de Bécora, fils d'Aphia, fils d'un Benjaminite qui était un vaillant guerrier. Il avait un fils nommé Saül. Celui-ci était jeune et beau. Aucun des Israélites n'était plus beau que lui. Il les dépassait tous d'une tête. Les ânesses de Kish, père de Saül, s'égarèrent. Kish dit à Saül, son fils, « Prends avec toi l'un des serviteurs, je te prie, et va rechercher les ânesses. » Il traversa la région montagneuse d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Il traversa le pays de Shalim et toujours rien. Il traversa le pays de Benjamin sans les trouver. Ils étaient arrivés au pays de Tsouf lorsque Saül dit à son serviteur qui était avec lui, « Viens, retournons de peur que mon père, cessant de penser aux ânesses, ne soit en peine de nous. » Il lui répondit, « Il y a justement dans cette ville un homme de Dieu, un homme considéré. Tout ce qu'il dit arrive. Allons-y, maintenant. Peut-être nous indiquera-t-il le chemin que nous devons prendre. » Saül dit à son serviteur, « Mais si nous y allons, qu'apporterons-nous à l'homme de Dieu ? Il n'y a plus de pain dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons ?» Le serviteur répondit à Saül, « J'ai sur moi le quart d'un sicle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. » Autrefois, en Israël, l'homme qui allait consulter Dieu disait « Allons chez le voyant » car le prophète d'aujourd'hui, on l'appelait autrefois le voyant. Saül dit à son serviteur, « Bien dit, alors, viens, allons-y. » Et ils allèrent à la ville où était l'homme de Dieu. Comme ils montaient à la ville, ils trouvèrent des jeunes filles qui sortaient pour puiser de l'eau. Et ils leur demandèrent, « Le voyant est-il ici ?» Elles leur répondirent, « Oui, il est là, devant toi, mais maintenant va vite, car aujourd'hui il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple en haut lieu. Quand vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au lieu pour manger. Le peuple ne mangera pas avant qu'il soit arrivé parce qu'il doit bénir le sacrifice. Après quoi, les invités mangeront. Montez donc maintenant et vous le trouverez tout de suite. » Comme ils arrivaient au milieu de la ville, Samuel sortit à leur rencontre en montant au lieu. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, le Seigneur avait informé Samuel en disant, « Demain, à cette heure-ci, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu lui conféreras l'onction pour qu'il soit chef sur Israël, mon peuple. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins. En effet, j'ai vu tout mon peuple et ses cris sont venus jusqu'à moi. » Samuel aperçut Saül et le Seigneur lui dit, « Voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui détiendra le pouvoir sur mon peuple. » Saül s'approcha de Samuel à l'intérieur de la porte de la ville et dit, « Indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant ?» Samuel répondit à Saül, « Je suis le voyant. Monte avec moi, au lieu. Vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir au matin et je te renseignerai sur tout ce qui t'inquiète. Ne t'inquiète pas de tes ânesses qui ont été perdues. Il y a tout aujourd'hui 3 jours, elles ont été retrouvées. À qui sera tout ce qu'il y a de précieux en Israël ? N'est-ce pas à toi et à toute la maison de ton père ?» Saül répondit, « Ne suis-je pas benjaminite de l'une des plus petites tribus d'Israël ? Mon clan n'est-il pas le plus petit de tous les clans des tribus de Benjamin ? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte ?» Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des invités, qui étaient environ 30 hommes. Samuel dit au cuisinier, « Serre la part que je t'ai donnée en te disant, mets-la de côté. » Le cuisinier préleva la cuisse et ce qui l'entoure, et il la plaça devant Saül. Il dit, « Voici ce qui a été réservé, mets-le devant toi et mange, car c'est ce qu'on t'a gardé pour la rencontre festive quand j'ai invité le peuple. » Ainsi, Saül mangea avec Samuel ce jour-là. Ils descendirent du haut lieu à la ville, et Samuel s'entretint avec Saül sur le toit en terrasse. Puis, ils se levèrent de bon matin. Dès l'aurore, Samuel appela Saül sur le toit et lui dit, « Lève-toi, je vais te reconduire. » Saül se leva, et ils sortirent tous deux de la maison, lui et Samuel. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, « Dis à ton serviteur de passer devant nous. » Celui-ci passa devant. « Arrête-toi un instant, » reprit Samuel, « et je te ferai entendre la parole de Dieu. » Samuel prit une fiole d'huile qu'il versa sur la tête de Saül. Il l'embrassa et dit, « Le Seigneur t'a conféré l'onction pour que tu sois chef sur son patrimoine. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près du tombeau de Rachel, à la frontière de Benjamin, à Tselstat. Ils te diront, les ânes que tu es allé chercher sont retrouvés. Maintenant, ton père a laissé de côté l'affaire des ânes, mais il s'inquiète de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils ? De là, tu iras plus loin et tu arriveras au térébin de Tabor, où tu trouveras trois hommes qui montent vers Dieu, à Bethel. L'un portera trois chevreaux, l'autre trois pingrons, l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu vas et te donneront deux pains que tu prendras. Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, en train de faire les prophètes, précédés de luttes, du tambourin, de la flûte et de la lyre. Le souffle du Seigneur s'emparera de toi. Tu feras le prophète avec eux et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes seront réalisés pour toi, fais ce que tu as à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi au Gilgal. Alors, à mon tour, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices de paix. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te fasse connaître ce que tu dois faire. Dès que Saül eut tourné le dos pour quitter Samuel, Dieu changea son cœur et tous ses signes se réalisèrent le même jour. Comme ils arrivaient là à Gibea, une troupe de prophètes vint à sa rencontre. Le souffle de Dieu s'empara de lui et il se mit à faire le prophète au milieu d'eux. Tous ceux qui le connaissaient virent qu'il se comportait en prophète avec les prophètes. Les gens se disaient les uns aux autres, « Qu'est-il arrivé au fils de Kish ? Saül est-il aussi parmi les prophètes ?» Quelqu'un de l'endroit répondit, « Et qui est leur père ?» De là le proverbe, « Saül est-il aussi parmi les prophètes ?» Lorsqu'il eut fini de faire le prophète, il se rendit au haut lieu. L'oncle de Saül dit à Saül et à son serviteur, « Où êtes-vous ? Où êtes-vous allé ?» Saül répondit, « Cherchez les ânes. » Mais nous n'avons rien vu et nous sommes allés chez Samuel. L'oncle de Saül reprit, « Je t'en prie, raconte-moi ce que vous a dit Samuel. » Saül répondit à son oncle, « Il nous a rien signalé que les ânes étaient retrouvés, mais il ne lui raconta rien au sujet de la royauté dont avait parlé Samuel. »
Je vais juste lire en fait les derniers versets du chapitre 10, parce que j'ai changé d'avis avant-hier, donc je vais aller jusqu'à la fin du passage. Donc on va reprendre le passage donc, au verset 17. « Samuel convoqua le peuple devant le Seigneur au Mitzpa. Il dit aux Israélites, « Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, c'est moi qui ai fait monter Israël d'Égypte. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous les royaumes qui vous opprimaient. Et c'est vous qui aujourd'hui rejetez votre Dieu, qui vous a sauvé de tous vos malheurs et de toutes vos détresses, en lui disant, place un roi à notre tête. Maintenant, tenez-vous debout devant le Seigneur, tribu par tribu et fratrie par fratrie. » Samuel présenta toutes les tribus d'Israël et la tribu de Benjamin fut désignée. Il présenta la tribu de Benjamin clan par clan et le clan de Matri fut désigné. Puis Saül, fils de Kish, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva pas. On interrogea de nouveau le Seigneur, « Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici ?» Et le Seigneur dit, « Il est caché au milieu du matériel. » On courut le tirer de là, il se tint debout au milieu du peuple, il est dépassé tous d'une tête. Samuel dit à tout le peuple, « Voyez-vous celui que le Seigneur a choisi. Il n'y en a pas comme lui dans tout le peuple. » Tout le peuple l'acclama en disant, « Vive le roi !» Samuel dit au peuple, « Le droit de la royauté, il écrivit dans le livre qu'il déposa devant le Seigneur. » Puis Samuel renvoya tout le peuple, chacun chez soi. Saül aussi s'en alla chez lui à Gibea. Des hommes de valeur dont Dieu avait touché le cœur l'accompagnèrent. Il y eut toutefois des hommes sans morale qui disaient « Quoi, c'est celui-ci qui nous sauvera ?» Ils le méprisèrent et ne lui apportèrent aucun présent, mais il garda le silence. Alors, La famille Obama est dans la Maison Blanche depuis plus de 100 jours maintenant. Et nous commençons à mieux comprendre les priorités de cette présidence aux États-Unis. Et c'est vrai que l'arrivée d'un nouveau leader nous rend un peu curieux. Il va être comment? Qu'est-ce qu'il va faire? Aurais-je envie de le soutenir ou aurais-je envie de le critiquer? Alors, selon Dieu, la demande que le peuple d'Israël a formulée pour avoir un roi, ça c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, ben cela constituait un petit peu un coup d'État, un sombre coup d'État, la trahison. Mais on a vu aussi que Dieu ne s'est pas emporté contre son peuple. Curieusement, il a accédé à la demande. Et ce matin, nous allons découvrir un peu plus l'identité de ce roi que Dieu va choisir. Nous allons voir ce matin, donc, en trois parties. Première partie, on va voir que c'est Dieu qui trouve ce roi. C'est lui qui reste la vraie vedette de l'histoire. C'est lui le maître de l'histoire, même l'histoire avec un H majuscule. Et nous allons voir dans un deuxième temps que c'est lui qui équipe le roi. Il lui donne son esprit. Et ensuite, dans un dernier temps, on va voir qu'il lui donne la parole. Donc, il gouverne ce roi. Alors, dans la première partie, donc, Dieu trouve un roi. Alors, chapitre 9 commence un peu comme le début du livre de 1 Samuel. C'est comme si on recommence le livre de 1 Samuel. Verset 1. Il y avait un homme. Cette fois-ci, cet homme ne vient pas de Ramathaïm Tsophim. Il ne s'appelle pas Elkana, mais il s'appelle Kish. Et c'est un benjaminite. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a été un vaillant guerrier. Du reste, il y a un fils. Et au verset 2, nous apprenons qu'aucun des Israélites n'était plus beau que lui. Il les dépassait tous d'une tête. Voilà, c'est le Brad Pitt des Israélites. C'est le prince William des Hébreux. Toutes les filles veulent se marier avec lui. Chacun d'elles a un poster de lui sur son mur de chambre. Saül, c'est clair, c'est le choix qui s'impose. Ça va, Anissa, oui? Mais on n'en est pas encore là. L'auteur de 1 Samuel s'intéresse d'abord aux ânesses de son père. Alors c'est quand même un peu curieux, cette histoire des bêtes perdues. Ces bêtes, il faut le dire, financièrement parlant, étaient probablement d'une grande valeur. Et on peut ajouter que le père de Saül a dû être riche. Et c'est pour ça qu'il envoie son fils, le fils Saül doit les trouver. Mais Saül... aussi beau gosse, fils de guerrier qu'il soit, ne les retrouve pas. Le verset 4, le martèle ce point. Il traversa la région montagneuse d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Il traversa le pays de Shalim et toujours rien. Il traversa le pays de Benjamin sans les trouver. Et c'est à la fin de cette quête un peu fatigante, un peu futile, que le serviteur de Saül se souvient de la présence d'un serviteur de Dieu qui habite cette région-là. Il parle bien sûr de Samuel. Et c'est à ce moment-là que la situation change. Verset 8. Saül, s'inquiétant de ce qu'il peut bien donner au prophète, trouve, comme par hasard, un quart de sicle dans sa poche. Verset 11. Comme ils montaient à la ville, ils trouvèrent des jeunes filles qui sortaient pour puiser de l'eau. Il leur demandèrent, « Le voyant est-il ici ?»« Oui, il est là. » Verset 13, les filles leur disent, « Quand vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez. » Les ânesses ne sont nulle part à trouver, mais c'est le prophète qui vont trouver. Alors pourquoi cette histoire d'ânesse perdue? Elle nous montre que Dieu, celui qui a tout créé, qui soutient toutes choses, et le Seigneur de ses circonstances, de nos circonstances aussi. Il n'est pas loin, il n'est pas absent. C'est vrai, nous sommes souvent perdus, nous avons parfois une vision partielle des choses, mais lui voit clair. C'est lui qui détermine nos pas. Alors, c'est les versets 14, 15 et... Oups, il faut que je revienne en arrière. 15 qui nous disent un peu ce qui est en train de se passer. Dieu agence toute chose selon sa providence divine, selon sa souveraineté majestueuse. Verset 15. Or, un jour, avant l'arrivée de Saül, le Seigneur avait informé Samuel en disant « Demain, à cette heure-ci, je t'enverrai à un homme du pays de Benjamin, et tu lui conféreras l'onction pour qu'il soit chef sur Israël, mon peuple. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins. En effet, j'ai vu mon peuple, et ses cris sont venus jusqu'à moi. » C'est que dans nos vies, à nous, le plus souvent, le Seigneur ne révèle pas la signification de tout ce qui nous arrive. Parfois, nous pouvons discerner, peut-être avec le recul, on peut discerner les leçons qu'il voulait nous apprendre. Parfois, ce qui nous arrive reste un mystère, on ne peut pas savoir. Mais il n'empêche que les détails de nos vies sont entre ses mains. Il est le Dieu souverain, rien ne lui échappe. Il connaît nos besoins même avant que nous lui adressions nos prières. Ce n'est pas toujours facile de lui faire confiance. Pas toujours facile d'accepter ce qu'il nous donne. Et Job, ce personnage célèbre de l'Ancien Testament, reste un peu notre modèle. Lui qui a dit « Le Seigneur donne, le Seigneur reprend. Béni soit le nom du Seigneur. » Mais ici, Dieu révèle à Samuel ce qui est en train de se passer. Ces bêtes perdues conduisent Saül à Samuel. Parce que Dieu a trouvé le roi. Et là, nous voyons toute la miséricorde de Dieu. On l'a vu dans le chapitre précédent. Le peuple avait rejeté Dieu. Mais Dieu n'a pas rejeté son peuple. Dieu suscite ce roi qui va sauver son peuple de la main des Philistins. Dieu se suscite de son peuple. Il entend ses cris de détresse. Dieu aurait pu les livrer à leur choix. Ils avaient rejeté Dieu. Ils ne voulaient pas que Dieu soit leur juge, leur protecteur. Ils avaient préféré un homme à la place de Dieu. Dieu aurait pu dire, « Vous ne vouliez pas de moi. Tant pis si les Philistins sont là. » Mais la miséricorde de Dieu est obstinée. On a cette petite phrase, « J'ai vu mon peuple », donc à la fin de cette citation, « J'ai vu mon peuple et ses cris sont venus jusqu'à moi. » Ça nous rappelle ce qui s'est passé en Égypte. Les cris du peuple sont montés jusqu'au Seigneur. Et c'est à ce moment-là qu'il répond. Donc il avait sauvé son peuple de l'esclavage en Égypte. Il les avait libérés de leur maître esclavagiste. Par la grâce seule, le peuple ne l'avait pas mérité, mais il l'a fait par amour. Voilà le cœur de Dieu. C'est un Dieu qui donne grâce sur grâce, qui est lent à la colère, qui est patient et qui prend plaisir à pardonner. Le Nouveau Testament nous dit que lorsque Jésus a vu les foules en Israël, un peu comme peut-être les foules à Châtelet-Léal à 9h du matin ou sur le parvis de la Défense, Jésus a dit, ou la parole nous dit, Jésus en a eu compassion. Il fut ému de compassion, car elles étaient lassées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Cette compassion, c'est vraiment le cœur, au cœur du caractère de Dieu. Dieu entend nos cris. Il connaît l'état de nos cœurs, de nos pensées, de nos soucis. Mais en même temps, il n'est pas dupe quant à nos sentiments partagés, à nos sentiments égoïstes, des sentiments un peu rebelles qui ne veulent pas de lui, notre manque de foi. Pourtant, il nous aime. Il a prouvé. Lorsque nous étions loin de lui, lorsque nous étions ses ennemis, c'est à ce moment-là qu'il a donné son fils. Qu'il a donné son fils comme un sacrifice de réconciliation. Cela n'a pas été un accident malheureux. Dieu l'avait annoncé bien des années avant, jusque dans les moindres détails. Dieu est maître des circonstances, il est maître de l'histoire avec un H majuscule. Et son règne providentiel est profondément miséricordieux. Alors sans doute Saül a dû être un peu perplexe par ce qui lui est arrivé, par les commentaires de Samuel. Il a dû être un peu gêné par toute cette attention que le prophète lui portait. Samuel a dit de manière un peu énigmatique au verset 20, « À qui sera tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas à toi et à toute la maison de ton père ?» Qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Mais Saul, dans un sens, je pense qu'il a quand même très bien compris ce que Samuel a dit. Parce qu'au verset 21, il répond, « Ne suis-je pas benjaminite de l'une des plus petites tribus d'Israël? Mon clan n'est-il pas le plus petit de tous les clans des tribus de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte ?» Ça nous rappelle peut-être le premier chapitre. Selon sa providence miséricordieuse, Dieu abaisse l'arrogant. Il élève le humble. Il est celui qui choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. C'est notre deuxième point. Dieu renouvelle le roi par son esprit. Alors c'est le lendemain que Samuel commence à dire les choses de manière plus claire à Saül. Il les dit quand même de manière discrète, donc pour que le serviteur de Saül ne les entende pas. Saül a besoin d'entendre la parole de Dieu. Dieu ne parle pas directement à Saül, il choisit de passer par le prophète. Les fonctions prophète, roi, restent bien distinctes jusqu'à Jésus, jusqu'à ce que Jésus change les choses. Dieu crée une constitution assez complexe en Israël avec des garde-fous. Verset 1 du chapitre 10. Samuel prit une fiole d'huile qui versa sur la tête de Saül. Il l'embrassa et dit, « Le Seigneur t'a conféré l'onction pour que tu sois chef sur son patrimoine. » Ça y est, le peuple aura son roi. Et ensuite, Samuel lui communique une prophétie, trois choses qui vont lui arriver sur le chemin du retour. Trois choses quand même un peu particulières. Premièrement, deux hommes à côté du tombeau de Rachel vont lui dire que les ânes ont été retrouvés. Deuxièmement, trois hommes au térébinthe de Tabor, sur le chemin de Bethel, vont lui offrir deux pains, et il doit accepter ces deux pains. Et finalement, Saül va rencontrer une troupe de prophètes, et lui-même, il va avoir cette expérience profonde de l'esprit. Il y a plein de petits détails, parce que Dieu veut le convaincre, Dieu veut le rassurer, qu'il est bien à l'œuvre, que Dieu est à l'œuvre. Que ce n'est pas simplement le hasard qui a conduit Saül à Samuel. Que ce ne sont pas simplement les paroles d'un vieil homme un peu sénile, mais vraiment Dieu est à l'œuvre dans sa vie. Verset 7 nous le confirme. « Lorsque ces signes se sont réalisés pour toi, fais ce que tu as à faire, car Dieu est avec toi. » Il veut persuader Saül que Dieu est vraiment avec lui. Et ensuite, quand les choses s'accomplissent, l'auteur de 1 Samuel met l'accent sur le verset 9. Dieu changea son cœur. Verset 10, le souffle de Dieu s'empara de lui. Il se mit à faire le prophète au milieu d'eux. Dans sa miséricorde, Dieu est en train d'équiper ce roi, Saül, pour la tâche royale qui est devant lui. Il va avoir besoin de l'Esprit de Dieu. Il a besoin de nouveaux cœurs. Il est beau, un beau gosse, fils de vaillant guerrier. Il a besoin de plus que cela pour régner sur le peuple de Dieu. De par le monde, il y a des gens qui souffrent aux mains de dictateurs. On peut penser à la Corée du Nord, donc ce gouvernement qui respecte peu les droits de son peuple. Il y a le peuple birman qui est tenu captif par un régime militaire. Il y a la jeunesse iranienne qui aimerait s'émanciper du régime islamique en vigueur. C'est vrai, il faut être très prudent avant de prendre un roi, avant d'élire un gouvernement, avant de soutenir un coup d'État. Un roi, un président, un leader, a énormément de pouvoir. Et nous savons que le cœur de l'homme est tortueux. Il est enclin au mal. Et les abus de pouvoir sont fréquents, en démocratie comme en dictature. Mais Dieu, dans sa miséricorde, suscite un roi. C'est un roi pour son peuple, un roi qui va sauver son peuple de ses ennemis. On va voir la semaine prochaine, Saül commence en remportant des victoires militaires. Et dans sa bonté, il donne à ce roi un nouveau cœur. Il change son cœur. Mais comme vous le savez sans doute, Saül ne sera pas un roi idéal. C'est le chapitre 16 qui nous dit, donc plus tard, que l'Esprit de Dieu quitte Saül. Mais ce texte nous montre que le roi idéal, le roi dont nous avons besoin, nous, le roi qui peut nous faire paître, qui peut nous défendre de nos ennemis, ça sera un roi sur qui l'Esprit demeure de manière permanente. Au début de son ministère à Nazareth, voilà. Jésus a dit, donc il cite le prophète Ésaïe, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, donc sacré roi, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Le règne de Jésus-Christ, Christ veut dire roi, est un règne véritablement libérateur, le règne de l'esprit de liberté. Il nous donne un accès libre auprès du Père. Le règne de Jésus n'est ni oppressant, ni écrasant. Il règne pour le bien de son peuple. Il le protège. Il lui donne une année de grâce. Cette grâce, ce pardon qui coule de la croix. Dans sa providence miséricordieuse, en dépit de notre indifférence, notre révolte, Dieu a suscité ce roi qui nous veut du bien. Un roi qui est plein de l'esprit, un roi qui est digne de confiance, digne de notre louange. C'est vrai que la confiance n'est pas toujours facile, hein. Surtout quand on voit les circonstances humbles de ces hommes que Dieu a suscités. Les gens de Nazareth, après, une fois que Jésus avait cité ce passage, étaient quand même un peu perplexes. Ils ont dit, n'est-ce pas le fils de Joseph? Et les gens autour de Saül ont dit, qu'est-il arrivé au fils de Kish? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Nous sommes à notre troisième partie. Dieu retrouve un roi et lui donne sa parole. C'est le moment du sacre du roi. L'heure est venue. Tout le monde est rassemblé pour ce moment important, solennel. Mais loin de mener les festivités, Samuel plombe l'ambiance de la fête. Il rappelle au peuple ce que le peuple est en train de faire. Verset 18. « Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. C'est moi qui ai fait monter Israël d'Égypte. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous les royaumes qui vous opprimaient. Et c'est vous qui aujourd'hui rejetez votre Dieu, qui vous a sauvé de tous vos malheurs et de toutes vos détresses, en lui disant « Place un roi à notre tête ». Donc ce nouvel ordre constitutionnel est né un peu sous un air disciplinaire. Samuel tient à rappeler au peuple, que c'est l'Éternel qui est le vrai roi. Si Dieu a accédé à leur demande, il ne cautionne en rien la trahison. Et la scène suivante est presque comique. Samuel passe en revue les tribus d'Israël. C'est public, il faut que tout le monde sache qui va être le roi. Mais quand Saül est finalement désigné, il est nulle part à trouver. Il est perdu, un peu comme ses ânesses. Ce beau gosse, fils de vaillant guerrier, est tout craintif. Il se cache. Et c'est Dieu qui le retrouve, caché au milieu du matériel. Encore une fois, l'acteur clé, c'est Dieu, c'est lui, le vrai roi. Et ce roi, en quelque sorte, il est simplement un sous-roi, un vice-roi. Suivez avec moi au verset 25. Samuel dit au peuple le droit de la royauté. Il écrivit dans le livre qu'il déposa devant le Seigneur. Puis Samuel renvoya tout le peuple, chacun chez soi. Le droit ou les devoirs de la monarchie sont définis dans la parole de Dieu. Donc c'est la parole de Dieu qui gouverne le roi. C'est un roi qui exerce son règne sous l'autorité du vrai roi, Dieu lui-même. Il n'a pas le droit de faire tout et n'importe quoi. S'il est le roi, c'est pour gouverner le peuple de Dieu selon les consignes de Dieu. Saül a besoin de cette parole. Si son règne va faire du bien, il doit y être obéissant. Encore une fois, ce texte nous montre quel genre de roi il nous faut. Nous avons besoin d'un roi qui est plein de l'Esprit de Dieu, comme nous avons besoin d'un roi qui est pleinement soumis à la parole de Dieu. La monarchie en Israël, on va le voir, a connu plein d'échecs. Mais souverainement, de manière providentielle, Dieu nous est en train de montrer quel genre de roi il nous faut. Il prépare la voie pour l'arrivée du vrai roi, d'un roi d'un tout autre calibre. Jésus-Christ, roi Jésus, il s'est soumis à son Père de manière obéissante, et ça jusqu'à mourir sur la croix pour son peuple. Il a fait librement, il a fait par obéissance, par amour pour son Père, parce qu'il aimait son Père, mais aussi parce qu'il nous a aimés. Jésus a dit, il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Comment ça se termine? Versets 26 et 27. Saül aussi s'en alla chez lui à Gibéa. Des hommes de valeur dont Dieu avait touché le cœur l'accompagnèrent. Il y eut toutefois des hommes sans morale qui disaient « Quoi, c'est celui-ci qui nous sauvera ?» Ils le méprisèrent et ne lui apportèrent aucun présent. Mais il garda le silence. Il y a deux façons de vivre. Celle de la loyauté au roi ou celle de la trahison contre le roi. Et Jésus cherche encore ce matin des femmes et des hommes de valeur dont Dieu a cherché à toucher le cœur. Il cherche des femmes et des hommes qui acceptent son règne, qui fléchissent humblement, joyeusement le genou devant lui. C'est Jésus qui est le roi qu'il nous faut. Un roi que Dieu, dans sa providence miséricordieuse, a annoncé d'avance, des centaines d'années avance, et qu'il a suscité au moment venu. Il n'est pas un roi humain qui a été placé là, à la place de Dieu. Jésus est pleinement Dieu, pleinement homme aussi. Il a le droit de régner. C'est un roi doté de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de liberté. C'est un roi qui nous libère de notre révolte, notre esclavage du péché. C'est lui qui nous apporte le pardon, la réconciliation avec Dieu. C'est un roi qui se soumet librement à son Père, à la parole de son Père, pour le bien de son peuple, la gloire de son Père. Alors si cette idée, l'idée peut-être de se soumettre au roi Jésus, vous est étrangère, peut-être une nouvelle idée, ou simplement quelque chose que vous êtes en train de peser, peut-être ça fait un moment que vous vous posez des questions par rapport à la foi chrétienne. Je peux peut-être vous rappeler, François a prié pour ça, donc on a nos 5 soirées Horizon Dieu qui sont en train de se avoir lieu en ce moment. C'est jeudi soir, donc à 20h, et on est en train de réfléchir à qui est ce roi et de mieux comprendre son règne. On a déjà eu notre première soirée, mais la deuxième soirée commencera donc ce serait ce jeudi. Alternativement, il y a quelques tracts à l'entrée qui s'appellent « Deux façons de vivre », qui parlent vraiment de ce sujet-là. Mais si en revanche l'idée que Jésus est roi vous est tout à fait familière et chère, Je vous invite ce matin à remercier le Dieu qui a suscité Jésus dans sa providence miséricordieuse. Il nous a donné son Fils, il nous a donné un roi, un maître qui nous aime, qui nous a procuré le pardon, qui nous gouverne selon la volonté du Père, de manière juste, de manière clémente, de manière bienfaisante. C'est lui le bon berger qui nous conduit dans de verts pâturages. C'est lui qui nous protège du mal, du monde et du malin. On peut remercier Dieu pour lui. Prions.